Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Être soigné correctement sans que ce soit une question d'argent, être pris en charge sans que ces soins n'impactent la sécurité financière du foyer, bénéficier d'une couverture santé universelle, c'est l'un des objectifs de développement durable fixés par l'ONU à l'horizon 2030. Objectif ? Oui, mais toujours simple promesse pour encore de très nombreux pays du monde. Ce qui explique que chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans l'extrême pauvreté parce qu'elles ont tout perdu pour soigner un parent ou un enfant. Et c'est aujourd'hui encore à Kigali que nous vous retrouvons avec l'équipe de Priorité Santé. Kigali, capitale d'un pays, le Rwanda, qui a choisi, il y a près de 25 ans, d'initier puis d'étendre le système de mutualisation du risque maladie. Ce choix qui se solde aujourd'hui par un taux de couverture de la population supérieur à 90%, avec à la clé une amélioration significative de la qualité du système de santé qui se traduit en chiffres, l'espérance de vie portée de 51 à plus de 67 ans en moyenne entre 2002 et 2017. Taux de mortalité maternelle et infantile réduit sensiblement eux aussi au cours des 15 dernières années. Mais insister sur le seul financement des soins ne suffit pas, car pour être efficace, cette couverture santé doit pouvoir s'appuyer sur une offre de services de soins qualitatifs et adaptés. Santé communautaire, infrastructures hospitalières, accès aux traitements répondant de façon pertinente aux enjeux sanitaires, aux réalités sociales et aux données épidémiologiques. Faire le choix de la couverture santé universelle, c'est aussi un choix politique de la part des autorités, assumer ses responsabilités en termes d'investissement pour la santé et rappeler cette vérité que souligne l'OMS, traiter les maladies coûte plus cher que les prendre en charge. Couverture santé au Rwanda, accès aux soins et impact sanitaire, une émission réalisée à Kigali en partenariat avec l'initiative 5%, facilité mise en œuvre par Expertise France et complémentaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Comment ce système de santé s'est-il mis en place ici au Rwanda? Quel impact en termes de santé pour la population? Est-ce que l'on peut parler même d'un modèle? Ces questions, on va bien sûr les poser à nos invités. Avec nous, docteur Diane Gashumba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes la ministre de la Santé du Rwanda et vous êtes pédiatre de formation. Docteur Solange Akiba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale adjointe de l'Agence rwandaise de sécurité sociale. Madame Philomène Roubaïza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes superviseur de santé communautaire à l'hôpital de Masaka, hôpital de district. Et avec nous, un homme autour de cette table, le docteur Émile Roimassirabo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine, urologue, ancien directeur de l'hôpital universitaire de Kigali, praticien au sein de l'hôpital du roi Faisal, hôpital de référence.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Diane Gashumba, ministre, médecin et hôte depuis le début de cette semaine de la 20e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Le Rwanda, on en a parlé ces deux derniers jours dans Priorité Santé, qui est à portée demain des objectifs fixés par l'ONU SIDA, la cible des 3,90 pour espérer de mettre fin à cette épidémie. Dépistage, traitement, charge virale indétectable. Est-ce qu'à vos yeux, Madame la Ministre, ces résultats reposent dans une certaine mesure sur la façon dont l'État rwandais gère sa santé et a géré son système de santé, notamment avec ses mutuelles?
Je dirais que les résultats reflètent la façon dont le système de santé au Rwanda est bâti, est organisé. Parce que si on parle du premier 90...
Le dépistage.
Les gens qui sont séropositifs et qui le savent. Ça reflète la sensibilisation qui se fait au Rwanda au niveau de la communauté. Non seulement la sensibilisation autour du sida, mais autour de l'importance de consulter les formations sanitaires. Donc, ces gens-là, ils sont séropositifs, mais ils ont pris conscience de leur statut sérologique. Et c'est au niveau des formations sanitaires que ça se fait. Mais il y a aussi la main, il y a le travail des animateurs de santé communautaire qui font du porte-à-porte pour sensibiliser la population. Pour le deuxième 90, le deuxième indicateur, c'est les gens qui sont séropositifs, qui le savent et qui sont sous traitement. Ça reflète l'accessibilité des médicaments, ça reflète l'absence
de rupture des médicaments.
Donc ça reflète tout un système qui est conçu de façon que les gens respectent les rendez-vous, ils vont à l'hôpital, mais ils trouvent aussi le service dont ils ont besoin. Le dernier indicateur, l'élimination de la charge virale, ça reflète la discipline. La discipline et la confiance des patients vis-à-vis du système de santé, le respect des rendez-vous et la prise des médicaments de façon régulière. Et tout ça, ça se fait dans un système compréhensible, complet, qui parle du ménage, qui parle des animateurs de santé communautaire, qui parle des conseillères, des agents sociaux, qui sont basés au niveau des hôpitaux, les docteurs, mais aussi les infirmiers, tout le corps médical, tout le corps des gens qui travaillent à l'hôpital, mais aussi la participation de la communauté, la participation des patients. L'assurance maladie, elle a aussi contribué à ce dont on vient de parler. Si les Rwandais n'ont plus peur de consulter parce qu'ils ne vont pas payer de leurs propres moyens. Parce que chaque Rwandais doit contribuer à la mutuelle de santé. La contribution est autour de 3 euros par an, par personne. Et chaque fois que le Rwandais va dans une formation sanitaire, on lui fait les soins, on lui donne les soins. Et la facture est donnée aussi après les soins. Et le patient ne va payer que 10% de la facture totale et les 90% sont couverts par l'assurance. Ça rétablit la confiance des gens, ça rétablit l'habitude, donc c'est vraiment dans les habitudes des gens de consulter. Je dirais même que des fois, ils consultent pour des petits bobos parce qu'ils n'ont pas peur du montant qu'ils vont payer. Et le gouvernement rwandais prend en charge complètement les gens vulnérables qui ne peuvent pas travailler, donc qui ne gagnent pas leur vie. Et ils constituent 16% de la population rwandaise. Et donc, les soins médicaux sont totalement, complètement pris en charge par le gouvernement.
Alors, avoir les moyens, on l'a vu, très important, améliorer la prévention, donner des soins. Aujourd'hui, docteur Diane Gashumba, quelle est la part du budget du Rwanda consacrée aux dépenses de santé ?
16,5 de son budget total.
Ça veut dire que vous dépassez ce qui avait été posé à Abuja comme objectif pour les pays, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Très rares sont les pays d'Afrique qui, aujourd'hui, consacrent une part aussi importante aux objectifs de santé publique. Docteur Diane Gashumba, avant de parler, bien sûr, avec les autres personnes qui sont réunies autour de cette table, une question, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cette mutuelle santé, ce système de santé est à maturité ?
Je dirais oui, parce que le système est là depuis plus de 20 ans maintenant. On a piloté en 2000, donc là c'est 19 ans de pilotage. On a piloté avec 3 districts au début. La généralisation, l'expansion sur tout le territoire national était en 2003. Donc je dirais que le système en soi, il est mature, mais aussi la qualité que le système a apportée, je dirais qu'il est mature. Bien sûr, on doit adapter. Plus on offre, plus on augmente la demande. Aujourd'hui, la population rwandaise, ils veulent que la mutuelle couvre tout. Ce n'est pas possible. Il y a un paquet que la mutuelle ne couvre pas et le gouvernement est en train là de discuter pour voir comment on peut étendre la couverture de la mutuelle à un paquet de soins de santé plus grand, plus étendu, mais en même temps renforcer les finances de la mutuelle pour que la couverture en termes de quantité aille en parallèle avec la qualité que les formations sanitaires offrent.
Que le système reste viable. Docteur Émile Rwamasirabo, si on regarde en arrière, vous êtes un petit peu le doyen autour de cette table. On a dit une vingtaine d'années depuis que le mouvement a été enclenché, ça s'est généralisé plus récemment, mais de quoi on est parti et on en est où justement aujourd'hui ? Nous en sommes où par rapport à l'effort engagé ?
On est parti de vraiment rien du tout. 94, c'est juste à la fin du génocide contre les Tutsis. Il y avait rien. Pas de centre de santé, pas d'hôpital district, pas d'hôpital de référence. On avait tout au plus, je me rappelle, en mars 95, 100 médecins, y compris les expatriés. Généralistes, spécialistes, rwandais, expatriés. 100 pour tout le pays. Donc, pour qu'on soit où on est actuellement, ça a été vraiment un marathon, quoi. Non seulement mettre en place les politiques, construire les institutions, former les soignants à tous les échelons, les médecins, les infirmières, les kinés, tout le monde. Donc ça a été une course marathon. Et ça a demandé vraiment une volonté politique claire, sans laquelle ceci n'aurait pas eu lieu.
Docteur Solange Akiba, construction, justement, le mot est tout à fait approprié parce que les choses se font étape par étape avec une planification qui est vraiment établie. Et aujourd'hui, ce système de santé rwandais, quand on le décrit, eh bien, c'est une pyramide. Vous pouvez justement nous décrire parce que c'est très important aussi pour comprendre comment fonctionne la mutuelle. On va du centre de santé inférieur au centre de santé de référence. Quelle différence de soins entre ces différentes strates ?
La mutuelle de santé est construite en plus de la méthode de catégorisation socio-économique des affiliés. Elle est construite sur le système de référence dans le secteur santé où l'affilié est reçu en premier lieu, soit dans le centre de santé qui est le plus proche de la personne, mais aussi dans les postes de santé qui sont des nouvelles initiatives de partenariat privé-public pour l'ouverture de centres d'obtention de soins qui sont plus proches de la communauté, là où le ministère de la Santé ne peut pas encore construire un centre de santé. Après, le centre de santé a un paquet de services qui lui est alloué, dont le staff a la capacité de prise en charge. Le patient qui vient, qui se présente et qui dépasse les compétences du centre de santé est référé à l'hôpital de district. Le système de référence inclut aussi la prise en charge d'une ambulance qui va emmener le patient du centre de santé vers l'hôpital de district. Et si l'hôpital de district est aussi à son tour dépassé par les besoins de santé du patient, le patient est référé au niveau de l'hôpital provincial et ensuite les hôpitaux de référence qui vont, dans ce cas-là, soigner ce patient jusqu'à ce que un pronostic peut être trouvé. La couverture de la mutuelle de santé est conditionnée par le respect du système de référence, mais l'utilisation la plus régulière se voit au niveau des centres de santé et des postes de santé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en termes de proportion qui nécessitent une référence à plus haut niveau.
Alors, on a vu là pour les différentes structures de santé. Maintenant, pour ce qui est de la couverture de l'assurance maladie, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population rwandaise qui est couverte ?
L'ensemble de la population rwandaise est couverte. Nous avons plusieurs possibilités de couverture. Nous avons la mutuelle de santé. Nous avons les assurances de santé pour le secteur formel. Mais nous avons aussi les assurances maladies commerciales qui sont beaucoup plus définies en termes de qui reçoivent celui qui peut venir et payer. La prise d'une assurance maladie est obligatoire de par la loi au-delà de 30 jours sur le sol rwandais. Alors cela a aidé à renforcer vraiment la culture de prioriser la santé et l'accès aux soins et éviter les dépenses catastrophiques des ménages ou bien des individus.
Tout à l'heure, on a parlé justement de ces différentes strates. On a deux illustrations autour de cette table. On a le docteur Rwama Sirabo, on a madame Philomène Roubaïza. Vous êtes superviseur de santé communautaire. L'hôpital de Masaka, dans ce qu'on a décrit dans cette pyramide, c'est l'hôpital de district. Quel type de pathologie est-ce que vous prenez en charge ?
Bon, on prend presque toutes les pathologies. Si, par exemple, la malaria ou le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, les opérations pour les femmes qui viennent accoucher à l'hôpital, on fait des opérations. On prend tous les paquets qu'on donne à l'hôpital, l'hôpital des districts, et les donne ça à la communauté.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait croire, quand on parle mutuelle santé, c'est de la paperasserie, c'est de l'administration, mais pas du tout. Parce que le fait d'accéder à cette mutuelle, le fait d'accéder à cette santé pour tous, ça a changé l'épidémiologie, les maladies qu'on soigne ici dans ce pays. Et vous en avez été le témoin. Vous êtes praticien auprès d'un hôpital de référence, docteur Émile Rwama Sirabo. Vous avez vu, justement, les maladies changer depuis que vous exercez votre spécialité, l'urologie.
Tout à fait. L'illustration de ça, les années 95-96, comme urologue, l'opération type, toutes les semaines, c'était la fistule vésico-vaginale, qui est l'illustration de l'absence de soins obstétricaux.
On appelle aussi ça les fistules obstétricales.
Voilà. C'était l'opération type de cette époque-là. Aujourd'hui, peut-être, ça fait deux ans que j'en ai pas fait une. On en a encore, mais d'un autre genre, qui sont plutôt des accidents opératoires au cours de la césarienne.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de souffrance des femmes qui accouchent.
Voilà. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas de services obstétricaux, les femmes étaient livrées à elles-mêmes. Quand il y avait un obstacle à l'accouchement normal, ça se terminait par une destruction des tissus qui faisait que les femmes avaient des fistules vésico-vaginales, donc avec perte d'urine en permanence. Donc ça illustre l'impact direct que le système de santé a eu, non seulement sur la santé des gens, mais sur la pratique aussi des médecins.
Docteur Diane Gachumba, justement, illustration concrète aussi, illustration chiffrée. Quand on regarde aujourd'hui l'état de santé de la population rwandaise, il y a bien sûr des indicateurs très très importants. J'ai dit tout à l'heure en présentation, vous étiez pédiatre. Si on regarde justement la santé maternelle, la santé infantile, c'est vraiment des avancées chiffrées qui sont très importantes. Il y a l'espérance de vie et puis aussi la sécurité des mamans quand elles mettent au monde un bébé et bien évidemment l'espérance de vie des jeunes enfants.
Oui, aujourd'hui l'espérance de vie des Rwandais est de 66,7. C'était 28 ans au moment du génocide, juste après le génocide. Quand on parle de la mortalité maternelle, le Rwanda a été l'un des premiers pays à vraiment réduire de façon sensible le taux de mortalité maternelle. C'est parti de 1076 à 210 sur 100 000 naissances vivantes en 2015. Et quand on regarde la proportion des femmes qui accouchent dans les hôpitaux, on est maintenant à 91% de toutes les femmes rwandaises enceintes qui accouchent dans les formations sanitaires, ce qui est une avancée importante et qui traduit donc ce qu'on vient de décrire comme système qui est bien construit et comme mutuel qui permet donc aux femmes enceintes d'accéder aux soins, pour ne citer que ces exemples. Et pour peut-être aussi mentionner un exemple à propos du VIH, le fait qu'on a stabilisé l'épidémie, le fait que la prévalence du VIH n'augmente pas depuis plus de 5 ans au Rwanda, elle est restée à 3%, c'est aussi une traduction de toutes les avancées qu'on vient de mentionner et l'investissement.
Alors qu'on partait de très loin, même pour le VIH, la prévalence était bien plus importante et bien évidemment au sortir du génocide encore plus importante compte tenu de toutes les exactions qui avaient été commises, notamment sur les jeunes femmes et sur les femmes en général. Exactement. Alors on va avoir une illustration tout de suite, on parle de la mutuelle. Comment ça se passe pour un assuré? Comment ça se passe pour quelqu'un qui a une maladie, qui se rend dans un centre de santé? On a compris, quand on est malade, la première strate pour aller consulter, eh bien, c'est le centre de santé communautaire. Nous nous sommes rendus dans celui de Kichukiro, avec, pour nous guider, Madame Bonheur Ouakijijwe.
Je suis titulaire de ce centre de santé de Kichukiro depuis 2005.
Alors, on va commencer par ici pour qu'on puisse expliquer.
Quand ils arrivent, il y a les gens de la réception. Ça, ce sont des cartes de la mutuelle. Attends, je vais vous montrer. On utilise maintenant la carte d'identité. On met ce numéro de la carte d'identité dans le système et puis on va voir le chef de la famille, qui est un registreur. Il passe par la caisse et paye son ticket modérateur. On paye en liquide et puis après, nous, chaque soir, on doit reverser au niveau bancaire. Et puis après, on lui donne cette fiche et puis il va entrer en consultation. Par jour, on peut avoir entre 100 et 150 personnes. Dans la consultation, on a 4 bureaux. Jusqu'à 14h, on a presque terminé tous les gens qui sont venus. On quitte là et puis soit on va au laboratoire ou soit on va prendre les médicaments. Et les médicaments, c'est ici à côté.
Bonjour. Ce sont les gens qui sont
en train d'attendre les médicaments. On va leur donner les médicaments.
Alors là, on voit, il y a des antibiotiques, il y a du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est vraiment les soins de base quand on a de la fièvre, quand on a des douleurs.
Oui, 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 c'est pour les soins de base. Quand on a des pathologies qui sont un peu plus importantes, on doit transférer à l'hôpital de district, puisque là, ils font plus d'examens et ce n'est pas comme au centre de santé.
Ça veut dire qu'une fois qu'on est passé par le triage, on vient avec l'ordonnance, on vient prendre ses capsules. Alors, c'est les ordonnances, donc c'est à la gélule près hein, pour les médicaments. Hein, on ne donne pas plus que ce dont on a besoin, hein, c'est l'économie. Et on donne tout ça gratuitement, c'est ça. Enfin, gratuitement, on paye la mutuelle, mais on donne sans argent.
Oui, on arrive avec cette fiche. Ça, c'est la fiche de la mutuelle. Tout ça, on va mettre dans un système. Et puis après chaque mois, on doit présenter cette facture à la mutuelle et puis ils vont payer pour le centre de santé. Même par l'ambulance aussi est couverte par la mutuelle de santé.
Bonjour.
Bonjour.
Waramutse.
Diego.
Je voulais vous demander si vous aviez sur vous votre carte de mutuelle et depuis combien de temps est-ce que vous êtes inscrit à cette mutuelle ?
Cela va faire 5 ans.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez votre carte de mutuelle, vous allez plus souvent chez le docteur ?
Oui, je vais souvent voir le médecin. Avant, quand j'étais malade, je n'allais pas me faire soigner, c'était trop cher. Maintenant, dès que je me sens mal, je vais voir le médecin puisque je paye très peu. Avant, j'attendais d'être très malade avant d'aller au centre de santé. Maintenant, même juste pour une petite grippe, je viens ici chercher les médicaments et je peux continuer de travailler, car ça ne s'aggrave pas.
Est-ce que vous avez l'impression que ça permet aux gens de mieux aller, de se porter mieux ?
Oui, et je fais de la sensibilisation pour convaincre d'autres personnes d'adhérer à la mutuelle de santé. Pour moi, c'est une solution pour le développement du pays et pour moi-même. C'est bon pour moi. Parce que je ne suis plus malade, je continue mes activités. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette mutuelle. Je voudrais que le monde, l'Afrique, bénéficie de ce système comme les Rwandais. Je connais deux amis d'autres pays pour qui se faire soigner, c'est vraiment très difficile.
Comment ça a commencé, ces mutuelles ?
La mutuelle, ça a commencé avec... Puisque l'État voyait combien il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient malades. Et puis les centres de santé, ils étaient, même les hôpitaux, ils étaient débordés avec des gens qui sont gravement malades. Alors on a commencé, je me rappelle quand on a commencé avec la mutuelle, on a commencé, on payait, je pense, 600 francs. Mais les tickets modérateurs étaient plus importants. Et puis après, on a continué à faire les sensibilisations et les gens, ils ont commencé à adhérer petit à petit. Avant la mutuelle de santé, surtout dans les hospitalisations, on avait beaucoup, beaucoup de malades, même au niveau du centre de santé, puisque les gens, ils arrivaient avec des pathologies. Il y avait le paludisme. Par exemple, des gens qui ont la diarrhée, ils restaient à la maison et ils arrivaient avec des déshydratations sévères. On avait beaucoup de femmes qui arrivaient avec des problèmes d'accouchement. Et puis, à cette époque aussi, on avait beaucoup de personnes avec le VIH-SIDA. C'était un mélange de toutes les pathologies.
Un état sanitaire dramatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les maladies infectieuses, c'est beaucoup moins grave. On a des maladies chroniques, mais qui sont prises en charge grâce à la prévention. Pour vous, ici, la prévention, ça marche ?
Oui, ça marche très bien. On a le système communautaire avec les animateurs de santé. Et là où ils font de sensibilisation pour la prévention, que ce soit pour l'hygiène, pour le paludisme surtout, chaque jour, on donne des causeries pour ces personnes qui viennent se faire soigner.
Donc maintenant, 15 ans après, justement, la mutuelle de santé, est-ce que vous avez vu un changement progressif ou est-ce que c'est allé très vite ?
Moi, je dirais comme un miracle, puisque je vous dis, en hospitalisation, on avait 2-3 personnes sur le même lit. Et maintenant, ici, par mois, on a plus de 3000, mais en hospitalisation, on a 7-10 personnes.
Priorité Santé ici à Kigali à l'occasion de l'organisation dans la capitale du Rwanda de la 20e édition de la conférence ICASA sur le sida et les IST en Afrique. Et avec nos invités, nous continuons de parler de la couverture santé universelle. Docteur Solange Akiba avec nous, directrice générale adjointe de l'Agence rwandaise de sécurité sociale. Madame Philomène Roubaïza, superviseure de santé à l'hôpital de Masaka. Docteur Émile Rwamasirabo, professeur de médecine, urologue. Et vous, docteur Diane Gashumba, ministre de la Santé du Rwanda et pédiatre. Justement, dans l'esprit, on va revenir sur la forme, et dans l'esprit de cette démarche de mutuelle de santé, est-ce que ça veut dire tout simplement, et c'est d'ailleurs une idée politique, que l'argent ne doit pas faire obstacle à l'accès à la santé ?
Absolument, parce que le gouvernement rwandais considère l'accès à la santé comme un droit inaliénable. Et le gouvernement rwandais a toujours promu l'égalité, l'égalité aux opportunités du pays, l'égalité à l'éducation, l'égalité du genre, l'égalité aux propriétés foncières, mais aussi, encore plus important, tout Rwandais a droit à avoir des soins de qualité. Et pour y arriver, il faut de l'argent. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Il faut que chacun contribue pour s'approprier de ce concept, pour que chacun comprenne qu'il n'y a rien de gratuit. Pour qu'il y ait la maintenance des hôpitaux, la maintenance des équipements, les salaires des médecins, il faut que l'argent vienne de quelque part. C'est pour ça que le gouvernement investit dans la santé avec 16% de son budget, mais il faut que chaque Rwandais contribue. C'est ça la mutuelle, c'est ça la solidarité. Tout le monde ne tombe pas malade en même temps. C'est ça la définition de la solidarité. Et c'est ce fonds qui va permettre au bureau de la mutuelle de payer les services pour les patients qui ont consulté ou qui ont été hospitalisés.
Docteur Solange Akiba, donc il y a un paquet de soins, on va dire un paquet de maladies, les maladies les plus fréquentes. Est-ce que ça veut dire que quand on a quelque chose qui n'est pas compris dans ce paquet de soins, on va payer de sa poche?
Toute pathologie qui n'est pas comprise dans le paquet est référée au niveau des hôpitaux de référence, bien entendu. Et quand cela est possible, l'Agence rwandaise de sécurité sociale, qui gère la mutuelle de santé, va émettre un avis sur la couverture de ce cas en particulier ou pas. Et en général, ce genre de pathologies sont signalées au ministère de la Santé, mais qui, eux aussi, ont un système intrinsèque de rapportage des cas compliqués, des cas usuels, des cas compliqués. Et l'une des missions du ministère de la Santé, c'est de vraiment obtenir des spécialistes qui viennent pour certains cas qui sont pas traitables au niveau du pays et disponibiliser ce traitement pour la plupart des malades qui attendent.
Alors, si on parle de maladies complexes mais fréquentes, si je vous cite, par exemple, le cancer du sein, est-ce que c'est pris en charge ?
L'oncologie est maintenant disponible au pays, tant la chimiothérapie que la radiothérapie. La mutuelle de santé couvre la radiothérapie. Le ministère de la Santé est en train de mettre en place le département de chimiothérapie, mais nous, c'est quelque chose que nous allons couvrir.
C'est en projet. Est-ce que aujourd'hui le système de santé, on l'a compris, est en partie public ? Il se dirige aussi vers une certaine forme de privatisation de certains secteurs. Est-ce que ça change quelque chose en matière d'accès pour les usagers ? Est-ce que c'est plus cher de se faire soigner aujourd'hui au Rwanda dans un hôpital privé ou semi-privé ?
Vous l'avez dit, la mutuelle de santé s'appuie particulièrement sur le secteur public. Et je crois que c'est une des grandes réussites du ministère de la Santé et du gouvernement en général d'avoir pu développer le secteur public et créer dans notre population la confiance dans les institutions publiques de santé. Aujourd'hui, le secteur privé est en train de s'investir davantage dans le secteur de la santé. Est-ce que c'est plus cher ? En certains points, oui. Mais c'est un travail que nous faisons conjointement avec le ministère de la Santé et l'Association des prestataires de santé dans le secteur privé pour vraiment revoir le coût de la santé, parce que il y a moyen de limiter les dégâts financiers qu'une prestation peut avoir sur le budget d'une famille. Mais nous n'oublions pas que les soins de santé ne sont pas peu chers.
La santé, ça coûte cher, effectivement. Philomène Roubaïza, est-ce que vous avez l'impression, quand vous voyez la population qui vient consulter dans votre établissement de santé, l'hôpital de Masaka, que les gens ont vraiment retrouvé la confiance en la médecine, quand ils viennent, quand ils ont un problème, ils sont sûrs que quand ils auront passé les portes de votre hôpital, eh bien, ils auront une solution?
Oui, oui. quand ils sont référés de l'hôpital, au centre de santé à l'hôpital, ils ont confiance qu'ils vont avoir tous les paquets nécessaires ou tous les paquets qu'ils doivent recevoir. Quand il y a une maladie, la pathologie qu'on ne soigne pas chez nous à l'hôpital, donc à ce moment-là, on transfère. Mais actuellement, en tout cas, si on peut dire à l'hôpital des districts de Masaka, nous avons aussi des spécialistes. Il y a peu de cas à référer par rapport aux gens que nous soignons. Ici, à l'hôpital de Masaka, dont ils ont la confiance, il suffit qu'ils puissent avoir la mutuelle de santé. Si on regarde bien, presque 95% de ces gens-là qui viennent se faire soigner chez nous, ou de ces gens-là qui sont référés à l'hôpital, sont des gens de mutuelle de santé et ils ont aussi leur mutuelle de santé. Ils paient seulement le ticket modérateur de 10%.
95% donc de cette part des personnes qui viennent en consultation.
Oui, oui.
Docteur Solange Akiba, vous vouliez réagir?
Certaines pathologies sont fréquentes et peuvent demander une spécialité qui n'est pas disponible au niveau de l'hôpital de district de façon permanente. Alors, le ministère de la Santé, conjointement avec la Mutuelle de Santé, a mis en place un système de stratégie avancée où les équipes de médecins vont descendre dans les hôpitaux de district pour pouvoir être plus proches des patients. Alors, il y a un appel qui est fait, qui dit, pour telle pathologie, nous demandons à tous ces patients, l'hôpital les connaît, il les appelle, ramène.
Vous pouvez citer quelques-unes de ces maladies, par exemple des insuffisances rénales, ce genre de choses?
Il y a des insuffisances rénales, il y a des opérations d'orthopédie, il y a des opérations en otorhinolaryngologie, il y a aussi des opérations pour corriger des malformations des enfants, des nouveau-nés, par exemple le bec de lièvre. Toutes ces stratégies sont vraiment mises en place pour pouvoir prodiguer ces soins à cette population qui, parfois, a des difficultés à se rendre au niveau des hôpitaux de référence.
Alors, Philomène Roubaïsa, avec vous, j'aimerais qu'on évoque justement, on en a parlé tout à l'heure avec vous, Madame la Ministre, ces agents de santé communautaire. On peut dire que c'est vraiment le premier lien entre les citoyens et la santé. Quel lien est-ce qu'ils ont avec vous? Est-ce que de temps en temps, ils viennent vous voir, y compris par exemple pour prendre les médicaments qu'ils vont dispenser en premier soin à la population? Comment s'est organisé ce lien entre ces agents de santé et vous?
L'organisation du système de santé au niveau de la communauté, des agents de santé communautaires, sont élus par la communauté, donc dans le village. Et puis, on leur donne la formation. Par exemple, nous avons au niveau du village, nous avons 4 agents de santé communautaire. Il y a un ACM, donc c'est l'agent de santé communautaire qui est chargé de santé maternelle. Il y a 2 binômes qui sont chargés de soigner les enfants de moins de 5 ans, le paludisme, la pneumonie, la diarrhée et les adultes aussi. Pour le paludisme. Il y a un agent de santé communautaire qui est chargé des health promotion pour les maladies non communicables et il faut aussi, ils sont sensibilisés surtout sur la nutrition. Donc il y a le système du village qu'on fait la cuisine du village. Ici chez nous on appelle cuisine des Mdougoudou. C'est ce qu'on a fait.
D'ailleurs, Diane Gashumba, Madame la Ministre, si on parle de nutrition, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de ces indicateurs de santé qui sont plutôt bons dans le pays. Il y a encore quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. C'est sur la question de la malnutrition et en particulier la question de la malnutrition infantile. Qu'est-ce qui est proposé en la matière?
Pendant longtemps, je pense qu'on est passé à côté de ce qu'il fallait faire pour endiguer ce problème. Et là, je dirais que toutes les équipes sont mobilisées. Donc, tout le monde a compris que le problème de malnutrition n'est pas un problème médical. C'est un problème social. C'est un problème qui doit s'adresser au niveau de la communauté, au niveau de la famille. Donc, c'est pas seulement question de médicaments, d'aller à l'hôpital. C'est toute une éducation. C'est pour ça que le gouvernement rwandais a mis en place ce qu'on appelle les centres de développement de la petite enfance. C'est des centres vraiment basés au niveau de la communauté, au niveau des ménages. Les mamans se rencontrent avec les papas, avec des gens qui sont formés, et les gens discutent. Ils discutent de la planification familiale, discutent du régime alimentaire qui convient à un enfant par âge. Ils discutent de la développement psychologique du bébé, de l'enfant, même avant la naissance.
On a ça en France, nous ça s'appelle les centres de protection maternelle et infantile, ça revient, c'est de la santé communautaire aussi, et tout le monde y a accès avec des pédiatres, avec des nutritionnistes, des infirmières, et aussi un lieu de rencontre et d'échange pour les parents.
Absolument. Et là, on veut que ça vienne vraiment des familles, on veut que ça soit ancré dans la famille, on ne veut pas construire des centres dans tous les villages et tout, on veut que les familles se mettent ensemble, qu'ils apprennent les unes des autres, parce qu'il y a des familles où les mamans sont vraiment sensibilisées, qui n'ont pas de problème. Ceux-là, ils vont aider les autres, et c'est la politique là qu'on est en train de faire, et on veut que ça s'étende dans tout le territoire national. On commence à avoir des résultats positifs, parce que quand on regarde les chiffres de la malnutrition aiguë, ça commence vraiment à baisser de façon sensible, et ça donne de l'espoir qu'on réussira à endiguer ce problème.
Diane Gachumba, vous allez devoir nous quitter, mais j'ai encore deux petites questions à vous poser. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la population a vraiment adopté ces mutuelles? Est-ce qu'il y a un attachement? Il arrive qu'on dise que les Français sont très attachés à leur sécu. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la famille. Est-ce que vous diriez que c'est en train de se construire ici, cet attachement à sa santé, à sa carte de santé, à cette possibilité aussi que le médecin, ça devienne non plus quelqu'un d'inaccessible, mais quelqu'un à votre service et à votre secours?
Absolument. Au niveau du village, n'importe quel Rwandais vous allez rencontrer, il va vous dire qu'il ne peut pas vivre sans mutuelle. Il ne peut pas concevoir un Rwanda sans mutuelle de santé. Et ça se traduit par de petits exemples. Aujourd'hui, on ne voit plus de paludisme cérébral au Rwanda. Ce n'est pas que le palud n'existe plus. On a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Mais le fait que presque tous les Rwandais ont la mutuelle, ils se font soigner à temps, il n'y a plus de palud cérébral. Moi, quand je commençais ma carrière au CHK, on avait plein de cas de palud cérébral.
Ouais. Vous tournez vers le docteur Wamasirabo parce que
c'était mon professeur.
C'était votre professeur.
Donc, c'est des souvenirs qui reviennent comme ça. Donc, il n'y a plus de palud cérébral. Vous regardez les statistiques du Rwanda, il n'y a pas. Il n'y a plus de bébés qui meurent de déshydratation parce que la femme rwandaise, le papa rwandais, il connaît l'importance de la mutuelle, il y va sans appréhension aucune.
J'ai une autre question qui est très importante, parce que bien sûr d'autres pays d'Afrique regardent ce qui se passe ici au Rwanda. Il y a des pays qui lancent leur propre mutuelle de santé, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça se passe aussi plutôt bien d'ailleurs du côté d'autres pays qui ont déjà beaucoup avancé, comme l'Éthiopie, le Ghana, le Cap-Vert. Est-ce qu'il y a d'autres responsables de santé publique qui viennent observer ce qui se passe ici? Est-ce que vous êtes un petit peu considéré comme un laboratoire?
Chaque année, le ministère de la Santé reçoit plus de 100 visites venant de tous les coins du monde pour apprendre. Et la plupart du temps, c'est ce système de soins primaires, de santé primaire qui attire les pays Rwanda, les agents de santé communautaire, la mutuelle de santé, les contrats de performance qu'on signe avec les autorités. Chaque dirigeant rwandais signe un contrat de performance basé sur des indicateurs clés, et on est évalué. Tout le monde est évalué au Rwanda. Donc, tout le monde est redevable. On reçoit une centaine de visites chaque année, et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une entité, une agence qui se charge de ces visites venant de l'extérieur, parce qu'en fait, ça nous prenait beaucoup de temps. On se retrouvait 80% de notre temps partagé entre ce qu'on doit faire et le partage des bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a une entité qui est en charge de toute la coordination.
Il y a une très grande rigueur ici, une très grande discipline. Rien qu'en allant dans un centre de santé, on se rend compte parce qu'il n'y a pas de bruit, les gens attendent calmement. Il y a vraiment une sorte, vraiment, le terme de discipline, ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'on soit au Rwanda pour que ce système rwandais fonctionne?
Je dirais qu'il y a d'autres pays où ça fonctionne, il n'y a pas que le Rwanda. Je pense que c'est une question d'adapter au contexte local. Chaque pays a sa culture, chaque pays a ses priorités. Et je pense que ce qui se fait au Rwanda peut se faire ailleurs avec une adaptation comme il faut du contexte local.
On vous remercie beaucoup, Madame la Ministre Diane Gachumba, d'avoir répondu à Priorité Santé. On va poursuivre notre échange avec nos autres invités, mais on vous laisse tout de suite partir. Merci.
Merci beaucoup.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Solange Akiba, je vais un petit peu rebondir sur ces sujets que l'on vient d'évoquer avec Madame la Ministre. En tant que directrice générale adjointe de l'Agence de Sécurité Sociale, sur l'appropriation, on voit dans les files d'attente les patients avec leur carte de mutuelle. Ils y tiennent à cette carte de mutuelle. Est-ce que vous sentez justement, quand vous parlez avec des usagers, avec des patientes, avec des personnes qui attendent à l'hôpital ou dans un centre de santé, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment leur mutuelle?
Oui, j'ai vraiment cette impression-là, parce que Quand on parle aux familles et qu'on leur présente au niveau de la formation sanitaire, par exemple pour un enfant qui a été référé pour une chirurgie, une obstruction intestinale par exemple, et les parents sont désespérés, l'enfant est soigné et quand on leur présente la facture, on leur dit « mais de ça vous ne payez que 10% », le soulagement qu'il y a sur leur visage n'a aucun prix. Et c'est très important parce que le fait de voir la facilité, l'accès financier, facilité pour les soins de santé, crée en chacun une confiance envers les organes de santé. Mais aussi, c'est vraiment le gouvernement qui a tenu son engagement. Le citoyen est confiant que, où qu'il soit, quelle que soit la pathologie dont il souffre, il va recevoir les soins de santé et c'est seulement à la présentation soit de sa carte d'identité, quand c'est quelqu'un qui est en âge d'en avoir une, ou alors une carte pour les enfants qui n'ont pas encore de carte d'identité.
Docteur Émile Roy-Massirabeau, il y a une dimension qu'on n'a pas abordée depuis le début de cet échange. Je m'adresse aux spécialistes, l'urologue, médecin hospitalier et professeur de médecine. C'est la dimension éthique. Qu'est-ce que ça change quand on est un médecin et qu'on a des compétences de pouvoir prodiguer des soins à quelqu'un qui va pouvoir payer alors qu'il y a 20 ans en arrière, eh bien cette personne n'aurait jamais pu venir vous consulter.
Ça facilite notre tâche, puisque on sait que on a besoin d'avoir des médicaments, on a besoin d'avoir les consommables, on a besoin de maintenir les équipements. Quand on est sûr qu'il y a des rentrées d'argent dans l'hôpital, que par conséquent, la maintenance de l'hôpital, l'achat des médicaments et des consommables va avoir lieu. Donc ça vous permet quand même de travailler dans de meilleures conditions. Avant, on disait que les soins étaient gratuits, mais aussi les stocks de pharmacie étaient vides. Quand vous demandez par exemple à un médecin spécialiste dans un hôpital de référence, pareil, la majorité des patients, c'est des patients de la mutuelle, puisque c'est la majorité de la population.
Et vous êtes enseignant. Est-ce que ça a un impact justement sur la formation des médecins de demain, de savoir qu'ils vont travailler dans un système comme ça, qui est basé sur le partage et sur la solidarité? On n'a pas dit encore ce mot, mais c'est bien ça, c'est un système de santé solidaire.
C'est ça. Parmi les valeurs que nous devons inculquer à nos étudiants, c'est pas tout que d'avoir un patient, une patiente devant soi. Il faut aussi connaître la couverture. Donc ça permet aussi de savoir les soins que je prodigue à tel patient. Est-ce que c'est des soins qui vont être disponibles? Donc dans le choix des médicaments, nous enseignons à nos étudiants de choisir les médicaments génériques qui sont remboursés par la mutuelle plutôt que de penser à des médicaments de spécialité qui souvent ne sont pas nécessaires. Donc il y a tout cet aspect quoi, de relier le patient à la capacité d'être remboursé et la capacité d'avoir les médicaments. Ça, c'est très, très important.
C'est très important, Solange Akiba, quand on voit que dans certains pays, les questions des déficits de la sécurité sociale sont des questions très importantes qui mettent même en cause la viabilité de ces systèmes. Aujourd'hui, vous y allez donc, on a compris, avec ce paquet de soins pas à pas, ça veut dire qu'il faut une extrême rigueur économique.
Absolument. Nous devons à tout prix, continuellement, retourner dans nos chiffres, regarder ce que nous servons déjà comme paquet de services, mais aussi la demande change continuellement. Les patients qui sont de plus en plus habitués à utiliser les services de santé en redemandent davantage. Et c'est notre responsabilité, en ce qui concerne ce qui n'était pas couvert hier, d'être envisagé pour demain. Nous voyons maintenant que les maladies non transmissibles sont de plus en plus visibles dans notre communauté et il est important de pouvoir adapter le service couvert par la mutuelle de santé avec les besoins de la population.
Ça veut dire aussi qu'ici au Rwanda, on a assisté à ce qu'on appelle à la balance épidémiologique. On est passé de l'infectieux, des problèmes de santé très graves avec les maladies transmissibles, vers ce virage, vers les maladies chroniques. Mais il y a toujours un paquet de maladies à prendre en charge. Tout à l'heure, vous citiez le paludisme. Certes, c'est pris en charge le plus souvent au niveau communautaire, mais il y a encore un double profil de maladies qu'il faut pouvoir assumer.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Les maladies ne disparaissent pas. Il y en a plutôt d'autres qui sont plus diagnostiqués parce que les services sont plus spécialisés. Il y a plus de personnel de santé qualifié et il y a plus d'utilisation des services de santé par les affiliés. Donc, ça doit rester un système dynamique.
Un système dynamique. Il y a un point que je voudrais qu'on aborde en conclusion, c'est sur le maillage territorial. Il y a Kigali, il y a le reste du Rwanda. Est-ce que vous avez réussi à justement pouvoir distribuer cette santé à l'ensemble du pays grâce à la santé communautaire, ou on va dire qu'il y a vraiment une situation de bonne santé dans la capitale et pour le monde rural, c'est différent?
Absolument pas. Tous les Rwandais, sur chacune des collines du Rwanda, a accès au même paquet de services. Chacun reçoit le même paquet de base et les cas compliqués sont référés tous au niveau des hôpitaux spécialisés et la couverture est la même. Nous tenons absolument à l'équité et nous améliorons le paquet de services pour pouvoir satisfaire tout le monde de la même façon.
Je vais vous laisser le mot de la fin, Dr. Émile Roma-Sirabo. Vous avez justement cette vision depuis des décennies sur la santé au Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut améliorer? On a la couverture santé, on a des étudiants de plus en plus nombreux qui se spécialisent, mais pour avoir une véritable santé pour tous, qu'est-ce qu'il faut faire et peut-être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Il faut continuer à améliorer la qualité des soins. Le ministère de la Santé a la vision d'apporter les soins de spécialité le plus bas possible, donc au niveau de district, c'est en cours. Il y a déjà des spécialistes, il y a un chirurgien, obstétricien, pédiatre, interniste au niveau de district, pour justement faire en sorte que les soins abordables sont accessibles le plus près possible. Je crois le fait que le pays a investi beaucoup dans les nouvelles technologies de l'information. Je ne sais pas si vous avez prêté l'oreille, mais la responsable du centre de santé parlait chaque fois d'entrer dans le système. Le système dont elle parle, c'est un système informatique qui permet d'identifier
d'identifier les patients
rapidement, quoi, sans beaucoup de paperasse, à n'importe quel coin du pays, c'est possible d'accéder au système. Ce système est en train d'être encore beaucoup plus développé. Déjà, quand vous présentez un endroit, quel que soit l'endroit au Rwanda, il sera possible d'avoir accès à votre dossier médical.
Le dossier médical partagé.
Voilà. Donc, toutes ces initiatives, je crois que ça va rendre le système beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus performant. Et les ressources financières disponibles vont être utilisées de façon la plus optimale possible. En ce qui me concerne, je suis vraiment conscient qu'on est sur la bonne voie.
Rationnel et solidaire. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui dans Priorité Santé enregistrée à Kigali. Merci Dr Solange Akiba, directrice générale adjointe de l'Agence rwandaise de sécurité sociale. Merci à vous, Madame Philomène Roubaïza, superviseure de la santé communautaire à l'hôpital de district de Masaka. Et merci à vous, Dr Émile Roma-Sirabo, professeur de médecine, ancien directeur de l'hôpital universitaire de Kigali, praticien au sein de l'hôpital du roi Faisal. Cette émission a été réalisée en partenariat avec l'initiative 5%. Priorité santé à Kigali à l'occasion de la 20e édition de la conférence ICASA, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Une émission préparée par Ophélie Lassène, réalisée par Richard Ifono, ici à Kigali, Didier Bleu à Paris. Demain, Priorité santé vous retrouve, hein, toujours ici à Kigali. Nous allons parler de la prise en charge psychologique des traumatismes associés au génocide de 1994. Nous donnerons la parole à des soignants, à des rescapés et patientes. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Tout à l'heure sur RFI.